Il y a quelques jours, je me suis un peu perdu dans les tréfonds algorithmiques d'Instagram, j'imagine comme vous de temps en temps, et je suis tombé sur une courte vidéo d'un jeune homme qui, je pense, avait à peu près mon âge et qui parlait de sa relation au plaisir et au bonheur. Alors, il citait tout un nombre d'activités variées, de plaisirs, de hobbies, et il ajoutait à chaque fois: Ah oui, ça, j'ai une forte libération de dopamine avec ça aussi. Et quand je le fais, je sens mon corps qui réagit bien, j'ai une bonne réponse dopaminergique. Et vous savez, alors ça m'arrive de parler comme ça, et je côtoie beaucoup de gens qui parlent comme ça, et je pense qu'on apprend beaucoup de choses en s'interrogeant sur les mots qu'on utilise et sur les mots que l'époque utilise. Aussi aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion sur ce qu'on appelle l'objectivisation du langage, sur cette fameuse hormone qui est un peu partout sur la dopamine, et ce qu'elle dit de nous, de notre rapport au plaisir, au bonheur, à la jouissance et à l'existence. Bienvenue au Dolmen pour cet épisode d'un podcast un peu spécial qui ne sera publié que sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcasts et Deezer, parce que je sais que vous êtes plusieurs milliers tous les mois à écouter mes épisodes que je poste également sur YouTube, à les écouter sur les plateformes, et je voulais lancer un format qui serait peut-être un peu plus adapté à la plateforme que vous pourrez écouter eh bien, en faisant la vaisselle, en vous baladant tard le soir, que sais-je. Mais voilà, un format qui se rapproche un peu plus de ce qu'on attend d'un podcast. Je sais que mes épisodes sur YouTube sont parfois assez denses et que la plupart d'entre vous préfèrent les regarder là-bas pour avoir un support visuel. Donc j'ai décidé de lancer ce podcast qui est entre les deux, cette espèce de carnet dans lequel je vous ferai de temps en temps part de mes réflexions un peu sur le pouce comme aujourd'hui, ou bien de mes diverses aventures au dolmen, de mes projets, de mes réflexions, voilà, auxquelles je pourrai également répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Donc je vous disais, il faut s'intéresser au langage. En fait, ce que je vous disais pour la dopamine, on peut l'étendre à plein d'autres sujets. Par exemple, aujourd'hui, dans une certaine mesure, le masculin est remplacé par la testostérone, le plaisir par la dopamine, et l'abnégation par la rétention de la dopamine, sans même parler du stress qui est souvent réduit à un simple taux de cortisol. Et cette régression du vocabulaire, elle a d'énormes conséquences. Parce que réduire la liberté d'un homme, c'est réduire son vocabulaire. Et quelque chose qui me paraît très important de noter, c'est que depuis que nous possédons l'outil du langage, qu'on appelle le langage doublement articulé, nous avons passé l'intégralité de notre temps d'existence en tant qu'espèce à l'enrichir, à amener tout un tas de petites divergences, tout un tas de variations autour des termes. Aussi, par exemple, rien qu'avec la langue française, le mot de bonheur a tout un tas de dérivés. On pourrait notamment citer l'extase, le plaisir, le bonheur, la jouissance, l'intérêt, l'affection, l'amour. Je pourrais continuer très longtemps, vous en doutez, mais le bien-être, l'euphorie, la convoitise, la délectation, tous ces termes ont une raison d'être et ne sont pas là simplement par hasard et pour faire joli. En fait, il y a une corrélation directe entre la richesse de votre langage et la richesse de votre pensée. Et ça, bon, c'est évident et ça me fait même un peu mal de le dire, mais un esprit qui parle clairement est un esprit qui, la plupart du temps, pense de manière riche et complexe. Et en ramenant toutes ces variations de ce qu'est l'expression du plaisir à simplement une vulgaire décharge dopaminergique sur laquelle on va revenir un peu après, ne vous inquiétez pas, eh bien, on réduit en fait l'expression du champ du possible. Et tout ça m'amène à un terrain que peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez bien, qui est celui du roman, de l'art, de la musique, bref, le terrain de la sublimation. Et quelque chose qui est important de noter ici, c'est que tout l'art, tout le processus d'écriture de symboles, qui est un processus typiquement humain, tient sur cette idée de la sublimation. Pour le dire un peu simplement, on aurait pu se contenter de la décharge dopaminergique, on aurait pu se contenter de j'aime et je n'aime pas. Mais force est de constater que depuis que l'homme est homme, il a passé sa vie à sublimer les pulsions les plus primordiales de son existence. Et tout ça a une raison d'être. En fait, ce qui rend l'humain humain et ce qui rend l'expérience humaine spécifiquement belle, riche et intéressante, ce sont ces structures, certes parfois un peu branlantes, qu'il construit sur des pulsions primordiales. Et donc, à partir de là, vous comprenez d'où part ma critique sur cette réduction du langage, sur des termes qui sont certes vrais, la question n'est pas là et j'y reviendrai un peu après, mais qui sont le point de départ sur lequel on construit tout le reste. Aurait-on eu les grands romans, aurait-on eu toute l'aventure musicale mondiale si les hommes, je sais pas, disons de 900 avant Jésus-Christ, ou peu importe l'époque, avaient découvert ce que c'était qu'une phéromone et comment fonctionnait, on va dire, la gamme initiale de l'expression du sentiment humain, auraient-ils pris le chemin artistique qu'ils ont pris? On peut en douter. Du moins, on peut se poser la question. Et est-ce que l'art qui en serait sorti aurait été comparable à celui qui trône aujourd'hui dans nos musées ou qu'on se plaît encore à regarder de temps en temps? Je ne pense pas. En fait, je pense qu'il y a une corrélation entre notre capacité à sublimer et à manier des artefacts complexes et notre capacité à atteindre un niveau artistique, intellectuel et culturel de très haut niveau. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Tant et si bien que j'ai besoin de vous prouver encore une fois qu'il y a une importance de la sublimation. En fait, quand on s'intéresse à l'évolution de l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'un parmi de nombreux autres facteurs de développement et de survie de l'espèce, c'est précisément notre capacité à transmettre une émotion et un sentiment. Et ça s'explique assez bien. L'espèce humaine, si elle a pu se développer au point où elle en est aujourd'hui, et là-dessus, ouvrez n'importe quel bon livre de paléoanthropologie et vous retomberez sur ce genre de raisonnement, c'est d'abord parce qu'elle a été capable d'amener un langage articulé complexe. Si je ne peux pas exprimer comment je me sens à mon semblable, ou si je ne peux pas comprendre comment lui très précisément se sent, ah bah, très vite, on va arriver sur des formes de quiproquos, on aura des difficultés d'organisation, on va pas pouvoir monter des villes sans même parler de pays ou de nations. Donc, sans sublimation, l'expérience humaine ne serait au fond qu'une longue errance dirigée par la poursuite de pulsions primitives auxquelles nous serions inféodés. Et en philosophie, cette chose dont on parle, cette objectivisation du langage, ce procédé qui revient à penser l'amour, par exemple, à partir d'un enchaînement de phéromones, tout ça a un nom très précis. C'est ce qu'on appelle la réification. C'est un concept qui est issu de la théorie critique, qui est une école qui est principalement allemande, une école de philosophie, avec des noms, on retrouve dans cette école des gens comme Horkheimer, comme Adorno, comme Axel Honneth. Et il y a un petit livre, alors qui est un peu compliqué, mais si vous avez un bon niveau de lecture, je vous le conseille, il est somme toute assez bref, qui s'appelle « La réification, petit traité de théorie critique », qui est un livre qui a été écrit par Axel Honneth et qui traite précisément d'un point de vue philosophique de tout ce dont je viens de vous parler jusqu'ici. La réification est décrite dans ce petit livre comme, je cite, attention ça va être un peu pompeux, mais je vous expliquerai derrière, comme la généralisation du processus unidimensionnel de l'échange marchand à toute interaction sociale, en sorte que les sujets perçoivent les partenaires et les biens comme des objets. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette espèce de charabia un peu philosophisant et un peu complexe? En fait, l'idée fondamentale derrière la réification, c'est de penser que c'est un processus qui transforme notre rapport aux autres, notre rapport au monde et notre rapport à soi. Les autres, par exemple, sont pensés comme des ressources dont on a des choses à tirer ou contrôler, face auxquelles on peut échanger un certain nombre de choses. C'est notamment la mouvance de l'objectivisation des relations sociales et des relations amoureuses. Mais, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la réification s'applique aussi à soi. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-réification. C'est le fait, je cite, de saisir ce qu'on éprouve psychiquement comme étant des objets à observer, à produire de manière normée. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec notre question de la dopamine. On en arrive à un point où ce qui nous intéresse, c'est de saisir la petite brique fondamentale de l'expérience humaine et d'à partir d'elle, penser qu'on comprend mieux et qu'on améliore notre compréhension de ce qu'est le processus humain. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça au fond ? Pourquoi est-ce que ce mot, cette objectivisation de la phéromone et du sentiment, se répand dans le langage? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons à cela. Il y a une raison qui est individuelle et il y a une raison qui est plus collective. Je vais commencer avec la raison individuelle. Je pense que la raison fondamentale qui fait qu'aujourd'hui on tente de simplifier l'expérience humaine, c'est qu'on essaie d'étendre une sensation de contrôle. L'idée, elle est simple. Si mon plaisir personnel, au fond, n'est qu'une question de dopamine, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir la main mise sur mon processus de plaisir. Mais tout ça part d'un espèce de mensonge, d'une illusion, qui est celle de penser qu'on peut ajuster son niveau de réponse au monde. À partir du moment où on pense que le plaisir dépend d'une seule et même molécule, eh bien oui, on peut mettre en place des détox de dopamine, on peut inventer un ennemi imaginaire qu'ici est représenté par la dopamine, qui nous empêcherait d'accomplir nos buts et contre lequel il faudrait s'élever, il faudrait qui nous pousserait à la procrastination en fait. Donc à partir de là, avec ce mythe de la dopamine qui est égale au plaisir, eh bien on s'auto-analyse pour essayer de reprendre le contrôle sur soi. Et dans la réification, il y a cette idée de contrôler son environnement, quoi qu'il en coûte. Mais c'est pas tout. Ça, c'est une explication qui est individuelle, mais il y a autre chose, et là-dessus, il va falloir qu'on parle un peu de la culture de masse de l'époque. La réification du sentiment a un immense avantage. Elle permet de vendre de la régulation sentimentale. En fait, si vous simplifiez le sentiment en un seul levier, mais ça marche aussi pour la masculinité, encore une fois. Là, je prends l'exemple de la dopamine, mais je vous parle de la testostérone, c'est exactement la même chose. Donc je disais, si on simplifie le sentiment à partir d'un seul levier phéromonal, eh bien, on augmente la perspective marchande. Autrement dit, c'est très dur de vendre quelque chose en disant 10 principes pour la joie. C'est pas très vendeur, ou 10 conseils pour être heureux. Alors que si on vous dit 10 conseils pour réguler votre dopamine, là oui, fatalement, c'est beaucoup plus vendeur, et vous vous dites, bon, ça doit être quand même un peu plus sérieux, parce que vous avez incorporé cette idée que la dopamine, eh bien, c'est l'hormone du plaisir. Ce qui, petite parenthèse, est loin d'être aussi simple. Si vous dites au moindre endocrinologue que la dopamine, c'est la molécule du plaisir et du bonheur, et qu'il faut que la meilleure façon de la contrôler, c'est de prendre des douches froides, et tout ira bien, qu'il y a de grandes chances qu'il vous rayonnez. Parce que la dopamine n'est pas juste l'hormone du plaisir. Et il y a la dopamine de l'endocrinologie dont je resterai bien incapable de vous parler, et il y a la dopamine qu'on nous vend aujourd'hui, qui est devenue un artefact marketing pour vendre une certaine régulation sentimentale. Et ce sont deux choses parfaitement décorrélées. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais pour aller encore un peu plus loin, tout ça, tout ce raisonnement autour de la molécule qui est égale, au sentiment, tout ça se place dans un cadre de réflexion qu'on appelle le capitalisme de la pulsion. Et ce capitalisme de la pulsion, alors je vous en avais déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo YouTube qui s'appelle Apocalypse cognitive, eh bien, il est basé sur deux leviers. Le premier, c'est votre temps d'attention. Et le deuxième levier, c'est votre réaction pulsionnelle. En fait, le capitalisme de la pulsion pense l'être humain d'une certaine manière. Et je ne suis pas en train de dire là-dessus qu'il y a un jugement normatif de ma part, c'est simplement comme ça, on a tous des manières de penser l'humain, de penser le vivant, de penser la vie. Et le capitalisme cognitif pense l'être humain comme un bocal, avec un temps d'attention disponible qu'il faut capter. Et pour le capter, eh bien, on va utiliser tout un tas de leviers phéromonaux. On échange en fait une décharge phéromonale contre du temps d'attention. Et là où je pense que, ou du moins j'aimerais vous faire réfléchir là-dessus, c'est que je doute que ce type de manière de vous concevoir soit le meilleur chemin pour un épanouissement individuel. En fait, en réifiant l'intégralité de vos sentiments, en vous pensant comme un bocal dans lequel il y aurait simplement des échanges phéromonaux, d'une certaine manière, vous adoptez ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire de l'ennemi. Ça va être difficile pour vous de mettre en place un processus de construction de vous-même si vous ne voyez pas les nuances, si vous ne voyez pas la richesse de l'expérience artistique et poétique que vous devriez avoir du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle un manque de vision intégrale. Et finalement, on arrive tous à un point où on incorpore cette variable dopaminergique comme faisant partie de notre expérience du monde. Et on en arrive à réduire notre expérience du plaisir et du bonheur à d'hypothétiques sécrétions d'une molécule chimique. Ce réductionnisme biologique de l'expérience humaine est l'inverse d'un développement sain et holistique. Parce que quand on y réfléchit bien et quand on lit des gens qui s'intéressent à ce qu'est l'élévation du niveau de conscience, on retrouve très souvent cette idée que c'est arriver à prendre en compte différentes réalités d'un même phénomène. Par exemple, puisque je vous parlais un peu de l'amour, bien sûr que l'amour a des réalités chimiques et phéromonales. Je suis pas du tout en train de remettre ça en cause, de la même manière que la dopamine joue un rôle dans le plaisir et n'est pas le plaisir. Mais s'arrêter là, en fait, ça revient exactement au même que vous dire l'amour, c'est la littérature. J'ai beau être un adepte de la littérature et avoir fait toute mon éducation sentimentale avec les grands romans français du 18e au milieu du 19e siècle, bah non, ça suffit pas, c'est une partie du spectre. Et donc, à une approche intégrale du phénomène humain, c'est prendre en compte la dimension matérielle, biologique, la dimension artistique, la dimension sociologique, la dimension philosophique. En fait, une bonne manière de remettre en cause vos grilles de lecture sur un phénomène, c'est de vous demander est-ce que cette manière de voir l'humain, cette manière de vous penser, puisqu'ici on parle de la relation que vous avez avec vous-même, est-ce que ça me trivialise ou est-ce que ça me complexifie ? Autrement dit, est-ce que ça me rend plus simple et plus lisible ou est-ce que ça me rend plus complexe, pas au sens compliqué, au sens riche du terme ? Parce que ce qui compte vraiment dans l'expérience humaine, c'est l'addition. C'est la complexification et c'est la sublimation. Trouver du sens en pensant ces sentiments comme des rapports phéromonaux, je dis pas que c'est impossible, mais ça va être une quête qui va vous demander énormément de travail. En fait, la question du sens, la question et la question, on va dire, de la direction que vous trouvez dans votre existence, elle dépendra essentiellement, à mon avis, de votre capacité à sublimer tout un tas de choses. Si je prends un exemple concret, je vais reprendre l'exemple du plaisir. Si vous partez à l'autre bout du globe avec un sac à dos, et si la seule vision que vous avez du plaisir, c'est une décharge de dopamine dans votre corps, bah, vous n'allez pas pouvoir expérimenter, comprendre et articuler à partir de toute la gamme d'émotions positives qui va vous traverser. Si vous ne faites pas de différence entre l'extase, le plaisir et la jouissance, ou tout un tas d'autres émotions, bah, en fait, vous allez vous priver de toute une partie du réel. Et si vous n'êtes pas préparé à admettre tout ce que ça implique de penser sa vie comme simplement un échange transactionnel phéromono, vous allez vous retrouver dans une vie où tout sera un peu aplati, le monde sera un peu gris et vous vous sentirez très seul. Là-dessus, si vous ne me croyez pas, je vous invite à lire le roman de Michel Houellebecq, Particules élémentaires, Les particules élémentaires, qui vous donnera un très bon ordre d'idée de ce qu'est de passer sa vie à la pensée en termes transactionnels et phéromonaux. Et à bien des égards, ce n'est pas l'expérience la plus riche que vous pourrez faire de votre vie actuelle. Il y a, je pense que la vérité humaine se trouve dans la sublimation, elle se trouve dans l'ajout. Et ce qu'on appelle l'art, ce qu'on appelle, on va dire, la culture au sens large, bien sûr que ce sont toujours des tours un peu branlantes, mises en place par par les siècles et par des individus qui ont cru en des choses qu'il est très facile de briser d'un coup. Mais en fait, ce sont ces tours, ces espèces de constructions intellectuelles un peu branlantes qui répondent à la quête d'élévation, qui répondent à la quête de sens et qui donnent à l'existence son goût si particulier. Donc demandez-vous toujours, et je conclurai là-dessus, si une grille de lecture vous trivialise ou si elle vous complexifie. Parce que la clé de votre liberté personnelle est ici. Voilà, c'était un raisonnement riche. J'espère que vous y aurez trouvé des clés pour votre propre rapport à cette novlangue de la dopamine et cette novlangue de la phéromone. Si la question vous intéresse, je pourrais faire un deuxième épisode là-dessus. Sinon, n'hésitez pas, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts ou sur Deezer, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Pourquoi pas me poser des questions ou me proposer vos sujets pour un prochain podcast ou un prochain carnet. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ce format un peu différent. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. J'y poste mes réflexions plus ou moins tous les deux jours de nouvelles petits aphorismes que j'écris et que je vous partage. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas également à le noter, peu importe votre plateforme de streaming. Vous savez que contrairement à YouTube, les plateformes de streaming, Spotify, etc., etc., n'ont pas d'algorithme de recommandation. Autrement dit, la seule manière de faire en sorte que d'autres gens découvrent mon travail, eh bien, c'est que vous le notiez sur la page du Dolmen sur ces plateformes, que vous mettiez le nombre d'étoiles que vous considérez que mon travail mérite et pourquoi pas le partager avec certaines de vos connaissances, ça m'aidera beaucoup dans on va dire, l'augmentation de mon audience sur ces plateformes. Voilà, je vous dis à la prochaine, on se retrouve normalement en début de semaine prochaine pour une vidéo YouTube qui j'espère vous plaira, et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.